Alors là, nous retrouvons le John Deere modèle A avec la semeuse à grains.
Oui. Une semeuse 28 roulettes. Si on va se mettre tout le grain avec ça. Mais ça prenait 7 heures pour semer 40 acres.
Pourquoi vous l'avez retenu?
Bon, c'est surtout en comparaison à ce qu'ils font aujourd'hui. Aujourd'hui, ils peuvent faire dans 7 heures, moi, c'est deux corps de section. Dans le temps, ça allait bien. Mais si on aurait ça aujourd'hui, là, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui garderaient.
Alors, 7 heures pour 40 acres quand tout allait bien?
Oui, oui.
Ça, c'était quand même nettement mieux que du temps des chevaux, quand même.
Oui, oui. Puis plus d'avance, certain.
Et puis là, qui est-ce qu'on voit sur la photo?
Ça, c'est la famille. C'est les deux plus jeunes de la famille. Gérard et Madeleine.
Gérard, Madeleine. Et qui conduit?
C'est moi.
Alors, comment êtes-vous habillé?
Ah oui, salopette, par-dessus d'une chemise, une casquette.
Alors justement, ce qui attire mon attention, c'est la casquette.
Oui.
Oui, alors c'est la casquette modèle courant.
Oui.
Vous l'avez trouvée où, celle-là?
Ah ben, au magasin, je suppose.
Est-ce que c'était comme, est-ce qu'il y avait quelque chose d'un petit peu exotique avec cette casquette?
Non.
C'était la casquette de travail?
Oui, c'est plutôt ça.
En tissu?
Oui.
Et puis ensuite, qu'est-ce que vous diriez qu'il y a comme animaux à gauche?
Ça, c'est deux veaux. Deux jeunes veaux qui étaient attachés là, pour, je pense, manger de l'herbe. Pour quelle raison ils sont là? Mais...
Et puis c'est les Holstein?
Oui.
Ouais. Et qu'est-ce qui pousse comme herbe là, alentour?
Alors là, c'est du fou, du gazon. Ça n'a pas été semé, ça a poussé tout seul. On ne peut pas dire quelle variété de gazon ça pourrait être.
Très bien. Est-ce que, et puis on reconnaît bien entendu en arrière la maison,
ah oui,
la remise,
oui.
qui sont encore debout, et le poteau là, ça c'est nouveau ce poteau là.
Oui, ben justement, il y a un transformeur, on a l'électricité, le turbo hydro, c'est le transformeur qu'on voit au bout. Mm-hmm. Il y a des fils qui s'en vont à la maison, puis il y en a d'autres qui s'en vont à la boutique, puis il y en a d'autres qui s'en vont à l'étable.
À ces trois places-là?
Oui.
Il n'y en a pas d'autres?
Non.
Est-ce qu'à ce moment-là, on a encore la glacière?
Oui. Oui, c'est dans...
Vous n'avez pas, quand l'électricité est arrivée, installé un congélateur?
Non, parce qu'on n'avait pas assez de... Le contrat de l'aide n'était pas assez gros pour que ça vaille la peine. Mais aussi, dans ce temps-là, peut-être que les vaches étaient pas mal diminuées.
Mais j'aurais pensé aussi qu'en ce temps-là, quand l'électricité arrive, il y aurait eu moins de canage.
Ah non, il y en a autant.
Ah oui?
Ah oui.
Alors quand est-ce que les canages ont arrêté, dites?
Te rappelles-tu?
Quand on a acheté des congélateurs.
Oui, ça c'était... Les 60, 65, 70.
Vous n'avez pas eu de congélateur avant les années 60?
Non, je ne pourrais pas dire. Peut-être un peu avant, mais pas beaucoup.
Pas beaucoup, vous dites?
Non.
Parce qu'on s'est marié en 57 et puis on n'avait pas ça dans le temps.
Non.
Donc, c'est ça, donc c'est intéressant, ça n'a pas été la priorité. Alors, puisqu'on voit des enfants, par rapport à votre temps, quand à cet âge-là, vous étiez en train de traire des vaches, ces enfants à cet âge-là, Est-ce qu'ils participaient aux travaux de la ferme?
Non. 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 Les vaches, ils n'avaient plus dans le temps. Non, la rauche. Ou s'il y en avait encore, ils étaient trop jeunes pour...
Donc, ils ont le droit de jouer, là?
Ah oui, ah oui.
Ils ne sont pas impliqués vraiment dans les travaux de la ferme?
Non.
C'est qui, les enfants?
Madeleine, puis Raoul.
Alors, la photo suivante, c'est un international 1949 de modèle M. Mm-hmm. En fait, il y en a trois. Il y a deux modèles M et ensuite, il y a un modèle WD6.
Mm-hmm.
Alors, qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant à dire sur cette photo?
Ben, il y en a deux pareils parce que c'est surtout pour la racheuse de betterave, oui. On a eu une en 47, puis la deuxième en 48, 9. Puis ça prenait des tracteurs de ce genre-là pour pouvoir mettre la machine dessus. Puis le troisième, c'était pour justement faire les labours. Surtout quand que les deux autres étaient occupés d'autres choses. Puis encore, on a été un des premiers à avoir eu ce genre d'arracheuse de betterave.
Pourquoi?
Peut-être parce que là, on avait plus d'ancrage que d'autres. Puis, je ne sais pas si on avait plus les moyens, ça, je ne pourrais pas dire. En tout cas, c'est possible.
Un mélange des deux. S'il y a plus d'ancrage, il devrait y avoir plus de moyens.
Ah oui, oui.
S'il y a plus de moyens, est-ce qu'il y a encore, là, on dirait comme un peu trois chevaux attachés, si on change un peu d'époque, mm-hmm. Est-ce que, à ce moment-là, il y a encore des chevaux? Est-ce qu'il en reste un cheval quelque part? Pour le fameux cas d'urgence.
Non, 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 là, non, il n'y en a plus, non.
Puis, donc, s'il y a un cas d'urgence, on peut y aller en tracteur.
Oui, oui, c'est un moyen, oui.
Ça a déjà été utilisé?
Très rarement.
La confirmation...
Oui, ça a déjà arrivé, mais...
Le chemin avait été réparé, il avait fallu l'amener à l'église pour sa confirmation. En tracteur.
Oui.
Mais c'est pas dans ce ferme-là, ça,
non.
C'est chez nous.
C'est pas la même chose. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres tracteurs à part ces trois-là ou ils sont tous regroupés, là?
Non, ils sont tous regroupés.
Là, c'est les trois. Avec ces trois-là, on fonctionne.
Oui.
Très bien. Donc.
Pour cette période-là, oui.
Pour cette période-là.
Oui. D'après.
Ah, ben oui.
Pour cette période-là, c'est-à-dire pour 1949, quoi.
Oui.
Quand vous cultivez la betterave depuis 9 ans maintenant, puisque mm-hmm. ça a commencé en 40.
Mm-hmm.
Alors là, j'imagine qu'en avant, c'est un bout de la remise.
Oui, justement.
Et puis, qu'est-ce qu'on voit comme gros bidon, là?
Ça, c'est justement les réservoirs pour le pétrole. Il fallait en avoir, deux ou trois. Parce qu'il y en a un qui marchait au diesel, puis les deux autres, c'était au gaz... Comment je l'appelais ça?
Essence bleue, là, non?
Non. Essence bleue, oui. Justement. Oui. Fait que ça prenait deux. Il y en a au moins deux, si c'est pas tout. Je pense que c'est deux différentes deux réservoirs
bon,
pour ça.
Jouons-nous une scène embêtante. Il tombe en panne. Ça arrivait assez régulièrement, les pannes?
Non. C'est rarement.
Ah bon? Vous l'attribuez à quoi?
C'est arrivé si peu souvent que...
Bonne qualité, bon entretien.
Oui, oui.
Vous le mettez plus sur le compte de la qualité ou de l'entretien?
Les deux.
D'accord.
Non, de temps en temps, il fallait l'emmener au garage pour... Mais ça, c'est les mécaniciens qui travaillaient dessus. Nous autres, mm-hmm. On faisait des réparations mineures.
Ces fameux pneus qui ont tant changé la vie des fermiers, là, mm-hmm. Est-ce qu'ils étaient de qualité?
Oui, oui.
Avez-vous constaté au fil des années, puisque vous avez eu beaucoup de tracteurs, une amélioration dans la qualité des pneumatiques?
Oui, oui, parce que ça a vraiment donné de problèmes. aucune sorte. Puis je pense qu'on a quand même eu la malchance de passer sur des clous pour le percer. Mm-hmm. Ça, non, je ne me souviens pas d'aucun dommage, ce bord-là.
Et donc, le mécanicien ou le garage auquel vous l'ameniez, c'était qui?
Les premières années, c'était justement Fraser & Hampson, le concessionnaire.
C'est ça.
Et après ça, c'est devenu la coopérative de l'atelier. Il y avait un ou deux mécaniciens qui faisaient ces ouvrages-là.
Cette coop de l'atelier, elle existe encore?
Non,
c'est fermé.
Oh, ça fait de quoi longtemps? Dans les 70, je pense. Au commencement de 80.
Pourquoi?
Parce qu'elles sont fusionnées avec d'autres coopératives.
Tourna.
Avec Altona, Saint-Baptiste et Altona.
Oui, tandis que Saint-Joseph est resté indépendant.
Oui.
Donc, elle n'a pu exister à l'atelier en tant que telle?
Non.
Mais elle a dû rendre de fiers services,
cette coop,
si je comprends.
Ah oui.
Un centre.
Oui. Ah oui, elle faisait beaucoup de transactions. Puis des services, donne beaucoup de services, soit aux automobilistes ou ceux qui avaient des tracteurs.
Alors, une fois que ça a fermé à la fin des 70, est-ce qu'il y a eu des regrets?
Non, ben, il y en a d'autres qui ont ouvert un garage.
Donc, un garage?
Oui, soit un particulier, par exemple.
Qui c'était?
Oh, je pense que c'était Denis Barnabé.
Il a eu ça pour plusieurs années?
Oui.
Décédé?
Après, non. Non. Après ça, c'est Louis Lavallée.
Ah, c'est lui qui est décédé.
Oui, il est décédé.
Donc, il y a eu Denis Barnabé, après Louis Lavallée.
Oui. Puis là, ben, il y en a un autre. C'est un Ménanite.
En ce moment.
Je ne sais pas son nom. Il y a toujours eu un garage ouvert pour faire ces ouvrages-là.
Est-ce que trois tracteurs, c'était à peu près le maximum que vous ayez eu? Est-ce que des fois, vous en avez eu plus?
Oui, ça a déjà arrivé qu'on en a plus. Seulement que c'est n'était pas utilisé comme tel pour la ferme. C'était plutôt comme des souvenirs ou des antiquités. Comme il y en a un de ces tracteurs-là qu'on a gardé longtemps, mais l'an dernier, on ne s'en servait plus pour faire les travaux, parce qu'il était pas. Ben, il était plus vieux, puis il n'est pas assez fort, puis il y avait quelque chose de mieux. Fait que ça, nous, on le laissait là, même on l'a gardé comme antiquité.
Ben, parce que là, évidemment, il n'était plus comme dans les débuts, il ne pouvait plus servir de monnaie d'échange.
Non. On ne pouvait à peu près rien avoir pour. Fait qu'on l'a gardé. Puis aussi, quand on voulait en avoir un œuf, si on le prenait à cash, ben, il baissait le prix. Fait que là, celui-là, il n'avait rien pour. Fait que pourquoi le donner, puis pour rien avoir, puis après ça, payer peut-être un peu plus pour un œuf? Non, c'était direct. C'est tous des petits trucs qu'on apprend là, avec le temps.
Alors, c'est parce que finalement, certains tracteurs étaient vraiment dépassés qu'il y a eu plus d'antiquité, parce que sinon, ils auraient disparu.
Oui, c'est surprenant comment il y en a des vieux tracteurs qui existent encore. C'est juste pour le garder. Comme à Saint-Joseph, on en verra beaucoup de ça.
Au musée.
Non, puis à part de ça, ben, avec le temps, il en sort des nouveaux. C'est tout amélioré, puis c'est plus efficace. Fait que c'est de même que c'est bien qu'il est remplacé.
Mais un vieux tracteur, des fois, le moteur, quand même, il peut tenir.
Oui, le moteur marchait, oui. Il fonctionnait pas comme un neuf, mais bien.
Bien. Alors là, nous passons à... On voit un tracteur, je crois bien.
Oui, mais là, je pense qu'on reculera un peu. Là,
avec la presse à foin.
Oui.
Et puis la photo date de 56.
56.
Mm-hmm. Alors, est-ce qu'il est beaucoup plus vieux que son que la photo?
Non, c'est pas mal le même dans les mêmes temps que ceux-là. Mais...
Bien, là, non, en 49, OK. 49 à 56.
Ah oui. C'est la presse à la fois qui me mêlait un peu. Là. Il me semblait qu'on n'avait plus besoin dans ce temps-là. Fait qu'il faudrait qu'on avait encore des animaux. C'est pas une grosse quantité, mais... Non,
ça a l'air très compliqué quand je regarde cette presse à foin.
Oui, mais c'est parce qu'il y a, pour moi, il y a une autre machine de l'autre côté, puis la machine, celle-là, fait l'ombrage, puis c'est ça qui complique. Puis là, on voit l'ombrage d'une bâtisse, là. Il y a l'ombrage qui arrive sur le tracteur aussi, qui nous embête un peu.
Et puis, en fait, on voit deux tracteurs.
Oui, il y en a deux.
Alors, c'est lesquels?
Celui d'en avant, c'est un Oliver.
Tiens, on ne l'avait pas rencontré encore, celui-là.
Non. On ne l'a pas eu longtemps, je pense.
Vous l'aviez eu d'où, celui-là?
Oh, ça, c'est un d'Altona.
Une tentative avec le concessionnaire, quoi.
Oui.
Et celui en arrière, c'est
un... En arrière, c'est un Farm Hall. Je pense bien que c'est celui-là, le Farm Hall numéro H. 47.
Celui de 45, 45, donc ça doit être...
Ben...
Non, il était un peu plus...
Non, c'est pas le même, parce que non, je vois une différence. Le tuyau est plus court là que celui-là.
C'est bien ça.
C'est pas le même.
Et le Farm Hall, il tire quoi, là, lui, là? Il est attelé à quoi?
Ben, je pense que c'est un râteau roulant. Pour faire sécher les andins plus vite, on passe un râteau pour le virer pour se faire sécher.
Ah bon, c'était pas... assez courant comme pratique?
Ben, courant, oui, même encore aujourd'hui, ça se fait. On s'en est même servi pour retourner les andins de grains.
Ah bon?
Quand ça prenait du temps à sécher, quand on voyait qu'il y avait des beaux soleils, on passait à ça, puis c'était délicat, il fallait le passer à temps.
Oui, parce que
ça s'est fait égrener.
Ben, c'est ça.
Non. Mais de l'autre côté, s'il reste là.
C'est toujours la terrible décision que le fermier doit prendre.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui aurait justifié cette photo-là? Pourquoi pensez-vous que la photo a été prise?
Ben, juste comme souvenir ou... Non, ou pas autre...
Quel est le bâtiment qu'on distingue au fond?
Ça, c'est la grande grenerie en bois. Puis aussi, qu'est-ce qui il met ça plus difficile à distinguer, c'est que je pense qu'il y a comme deux photos en une. Vous voyez, c'est comme coupé carré, là. C'est pas normal. C'est coupé là aussi. C'est coupé là. Fait que c'est comme s'il y a deux photos une par-dessus l'autre.
Des fois, les
caméras
font ça.
Oui.
C'est un défaut qu'il y a eu à un moment donné. Oui, il y a peut-être effectivement un gros problème avec cette photo.
Oui.
Qu'est-ce qu'on voit comme appareil qui est à côté de la grosse grainerie?
Alors, c'est un cultivateur. C'est pour travailler le terrain. Puis, au côté, il y a un soireur aussi. Soireux de 10 pieds.
Et le cultivateur, il en a combien?
C'est 10 pieds aussi. C'est pour moi la même chose. La même longueur, la largeur.
Bien, alors là, nous passons à la photo avec Henri et Jean sur le Farm Hall en 45. Alors, est-ce que c'est pas celui-là qui aurait été le premier à pneus?
45. Non, je crois pas. C'est plutôt le John Deere. Parce que je me souviens pas d'avoir semé des betteraves avec ça. ce tracteur-là. Mais le John Deere, oui. C'est peut-être l'année qui n'est pas la bonne, dans rien, là.
Alors, quel est l'intérêt de... Et c'est vous qui est sur le tracteur?
Oui. Avec un de mes frères.
Lequel?
Jean.
Qu'est-ce qu'il avait de particulier, le farmer? Est-ce qu'il pouvait élargir ses roues aussi?
Oui.
Ah oui?
Oui. Oui.
Alors, puis, par rapport au John Deere?
C'est à peu près la même chose. Puis, je ne sais pas si on peut dire. Il y avait une différence dans les deux. Je ne m'en pas tellement. Avec celui-là, on peut l'élargir plus que celui-là. Parce que même, c'est qu'on peut enlever le pneu de sur la roue du milieu, puis on revire la roue de bord, puis là, ça peut la sortir encore plus loin. Fait que là, Benzo, quand on a fait ça, après ça, on les rentrait tel quel, on ne les revirait pas chaque fois. Celui-là, il servait moins pour les betteraves, fait qu'ils ont resté de même.
Quel est le... espèce de...
Une poulie?
Ça, c'est la poulie.
Ben oui, justement, là, comme tout à l'heure, on était question de faire une machine mouillée à battre. Là.
Oui, c'est ça.
Bon, ben c'est une poulie, c'est ça. Comme ça.
Donc là, c'était un équipement standard sur ces tracteurs?
Oui. Ben, je dis oui. Dans ces années-là, peut-être, mais après ça, là, on aurait dit qu'il fallait toujours spécifier que ce qu'on voulait avoir. Même le siège. C'était pas standard.
Ah bon?
Un genre d'option. Mais peut-être que là, il commençait à sortir différentes sortes de sièges. Il y en a qui étaient, mettons, plus durs, puis d'autres, bien, plus coussinés, puis d'autres, je sais pas quoi. Là. Fait que là, ben, il fallait spécifier quelle sorte qu'on voulait avoir. C'est pour ça que c'était pas compris, là.
Ah oui, donc il y avait la base, et puis ensuite, on rajoutait les options.
Quoi. Justement.
Qu'est-ce qu'on voit comme équipement, là, à côté du tracteur?
Ça, c'est un rouleau pour affermir la terre.
Ce serait quoi, ces mesures?
Ça, c'est à peu près 12 pieds de large.
Il était utilisé à quelle époque?
Ça a servi avec des chevaux. Ça, je ne me souviens pas de l'avoir vu... à ce temps-là, mais on s'en est servi avec un tracteur. Pour quelle raison? C'était pas à grande échelle. C'est-à-dire que, je sais pas, peut-être un champ, là, puis, je me souviens pas juste pour quelle raison, en tout cas, on l'avait, je me souviens de...
Et quand est-ce qu'il faut affermir la terre? Qu'est-ce qu'il y a comme condition qui fait qu'on doit utiliser pareil à pareil?
Ben, on a découvert plus tard, surtout pour la betterave, il faut que la terre soit ferme. Mais avec ça, là, je ne sais pas. On n'a pas.
La terre doit être ferme à quel moment?
Au moment de la semence. Mm-hmm. Pour avoir une meilleure germination. Parce que je me souviens, une année, justement, c'est ça qui nous a fait réaliser que la terre trop meuble. C'est que j'avais semé un 40 acres en trèfle, en luzerne, puis je l'ai viré pour faire de l'engrais. Puis l'année suivante, j'ai semé de la betterave à sucre, espérant d'avoir une grosse récolte, mais presque rien. La germination n'était pas bonne. Puis partout où c'est que la terre était ferme, soit une rigole, là ça poussait bien, mais là, où c'était un peu plus haut, la terre était plus meuble. Non, là, il y avait une betterave, ici là. Puis, à part de ça, ben, je pense qu'il y a des verres qui sont mis dedans, ils en ont coupé, fait que ça éclaircit encore davantage. Après ça, on s'est mis à meubler, pas à meubler, mais à pacter le terrain, oui. Pour que ça soit plus ferme. Mm-hmm. Puis là, ça poussait mieux. Puis en même temps, ça allait mieux pour d'autres machines aussi. Quand tu travailles dans la terre meuble, mais ça fait, surtout s'il y a un peu de mauvaises herbes, ben ça pogne après les grattes, puis ça fouille. Puis. Mais en étant plus meuble, ça coupait de chaud. C'était un avantage.
Donc, à un moment donné, c'est par l'observation en bon scientifique que vous avez remarqué que ça valait la peine.
Puis là, on le faisait avec la semeuse à grains. C'était pas celle-là, là, mais une autre, comme les press drills. Ça, on appliquait l'engrais aussi en même temps. Puis, ça fermissait le terrain pour semer. Puis après ça, quand on vient pour semer le betterave, on n'a pas besoin d'ajouter tant d'engrais dans la semeuse. Puis ça prenait du temps. On sauvait du temps. C'est tout des fous en essayant. On a pensé, puis on essayait, puis on s'apercevait que c'était mieux. Puis c'est de même qu'on a appris, souvent.
Oui, parce qu'évidemment, comme par exemple pour la betterave, vous étiez des pionniers, oui. Il fallait bien que vous trouviez.
Oui.
C'est une recette que vous suiviez,
non.
Quoi.
Non.
Donc il fallait toujours être à l'affût tout le temps, quoi.
Mm-hmm. Ça a pris plusieurs années avant qu'on découvre ça.
Et puis vous l'avez découvert un peu par hasard, même,
oui.
Je dirais.
Oui.
Comme tous les mondes scientifiques.
Oui.
Par hasard, mais à condition qu'on observe, quoi.
Oui.
Il faut prendre l'occasion, quoi.
Oui.
Très bien. Alors là, peut-être quelques mots sur la combine de 1965.
C'est une internationale. C'est considéré comme une assez grosse combine dans le temps. Uh-huh. Ça, je peux pas en dire trop, parce que c'était pas moi qui étais l'opérateur de ça, celle-là. Je pense que c'est moi qui est dessus, mais c'était pas la mienne. Mais c'était satisfaisant.
Alors,
oui, surtout.
Si on l'examine par rapport à l'autre à côté qui a été prise un an plus tard,
mm-hmm.
est-ce qu'il y a une différence entre les deux types de machines?
Pas tellement. Je pense que quand on a appris à en conduire une, on sait presque tout. Certaines choses sont faites un peu différemment, mais c'est le même principe. Faut que non, il n'y a pas de problème à y avoir.
Alors, elle est verte.
Et oui,
c'est une
John Deere.
Comme toutes les John Deere qui se respectent.
Oui.
Vous avez toujours connu le vert pour le John Deere.
Oui, plus que toute autre chose.
Et le camion qui est à côté.
C'est un Chevrolet, 2 tonnes. Ça fait plusieurs années, on a eu ça plusieurs années. Il était bon.
Ah, si vous l'avez plusieurs années, c'est qu'il était fiable.
Oui.
Vous l'avez obtenu où? Qui c'est qui avait des Chevrolets?
Non, je ne me souviens pas où ça devient. C'est probablement Saint-Jean-Baptiste, mais non, pas sûr.
Et là, il va aller où, là, avec sa charge, ce camion?
Ça, c'est à la Grainerie.
Il ne va pas à l'élévateur.
Non.
Et elle est où, la Grainerie?
Ben dans la cour.
Et elle est à combien de distance, là, la cour?
Si je me rappelle bien, là, il y a quoi, un demi-mille?
Mon nom est Bernard Bockel, nous sommes le 29 mars 2007. Je suis toujours en compagnie de Monsieur Henri Danfous. Et maintenant, nous allons nous concentrer un petit peu plus sur la culture dans laquelle il s'est spécialisé, à savoir la betterave à sucre. Alors la première photo que nous allons commenter, c'est une photo de Monsieur Danfous sur son tracteur, cultivant les betteraves à sucre à l'été de 1966. Alors, on vient comme ça, avant hors micro, de dire à quel point les betteraves sont résistantes.
Ah oui, ben justement, je me souviens des premières années, on faisait attention pour pas passer dessus, pour de peur de les endommager. Mais non, on a réalisé que même si on passe avec un tracteur, un gros tracteur lourd, les vedrages sont tous aplatis. Le lendemain, on vient et ils sont tous retressés. C'est pas croyable de voir la force qu'ils ont pour se soulever de même. Ça, bien, justement, c'est avec des. Avec les années qu'on découvre ça.
Les années et les erreurs. Soit des erreurs.
On pense que c'est une erreur, oui. Mm-hmm. Puis on a discuté aussi de l'éclaircisseuse électronique. Mm-hmm. Ça, j'ai trouvé que c'était presque une merveille quand ça a sorti.
En quelle année à peu près?
Ça, je l'ai oublié.
Encore dans les années 70?
Peut-être au début des 70.
OK.
Oui, je croirais. Là, ben, c'est assez. C'est une merveille dans le sens que, avec la main-d'œuvre, quand les betteraves sont petites, sont jeunes, ça va bien. Mais du moment que la betterave pousse, ça grossit, c'est plus dur à couper. Puis là, ben, la main-d'œuvre se plaint. On n'a pas assez cher, puis on ne peut pas en faire assez. Alors, ben, on va remonter le salaire. Puis après ça, deux, trois jours plus tard, ben, on ne peut pas en faire assez. Tandis qu'avec la machine, que ce soit des petites betteraves ou des grandes qui sont trop grosses pour piocher la main, la machine s'en va dedans, ça ne dit pas un mot, puis pas de plainte d'aucune sorte. Puis on a trouvé que le rendement il était aussi bon. C'est pas mieux. Puis en plus de ça, ben, on pouvait contrôler le nombre de betteraves dans 100 pieds, par exemple. Parce qu'avec la main-d'œuvre, non. On leur disait, laissez-en un peu plus. Après ça, ben, il y en avait trop, ben non. Tandis qu'avec la machine, on pouvait l'ajuster comme on voulait. Comme avoir le nombre de plants idéal là, dans 100 pieds, c'est à peu près 100, 105. Avec ce nombre-là, on était certain d'avoir une bonne récolte. Ça, c'est assez facile de prendre le comptage de ça.
Oui. Est-ce que ça a été un gros investissement?
Pas tellement, non.
Est-ce que vous vous souvenez du prix de cette
machine? Bien, comme raison, c'est pas moi qui l'ai acheté. Dans ce temps-là, c'est mon père qui faisait tous les achats. Puis non, je ne pourrais pas dire si c'est dispendieux ou non. En tout cas, ça s'est payé, ça n'a pas été long. Parce que dans le temps, quand on engage de la main-d'œuvre, c'est dispendieux. Mais je trouve que c'était l'item le plus dispendieux de tout. Parce que cette machine-là, même si on payait, je ne sais pas, 10 000, ben c'était bon pour plusieurs années.
Est-ce qu'elles se sont améliorées, ces machines-là, au fil des
années? Non. Pas tellement, non. Non, c'est le changement qu'il y a eu, c'est que là, on n'avait plus besoin de s'en servir, d'éclaircisseuse. C'est parce que là, ils ont découvert avec les recherches qu'ils font à tous les ans, ils ont trouvé une variété de graines de betteraves qui avaient rien qu'un germe. Puis là, ben, ils ont sorti des soit des ajustements ou après sur la semeuse, qu'on pourrait mettre tant de graines au pied. Ça, c'est des plates qu'on met là-dedans, de la boîte à semeuse, qui va mettre tant de graines c'est de façon-là qu'on pourra contrôler.
Donc, l'éclaircisseuse, à ce moment-là, quand il y a eu l'avancée, on va dire presque génétique, elle est devenue obsolète.
Oui, justement. C'est de même que je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'amélioration sur la machine, parce que ça n'a pas duré assez longtemps.
Alors, vous avez passé, si on se donne une idée générale, vous passiez combien de temps dans les champs? À quelle période? Ben, si on essaie de donner un peu le cycle du betteravier.
Bien, ça commence même. Je dirais que ça commence l'automne avant. Parce qu'on prépare le terrain un peu dans le sens que quand on sait la quantité d'engrais qu'il y a besoin, mais donc on étend l'automne, qui nous avance pour le printemps. Puis après ça, il y a les semences.
Est-ce qu'il y a un engrais particulier?
Pas nécessairement. La quantité peut être différente avec les céréales, mais c'est à peu près la même sorte.
Uh-huh. Ensuite?
Ensuite,
l'engrais est
étendu. Oui, après, je sais que je faisais la semence. Puis, je pense que trois semaines après que les betteraves sont levées, mais là, il faut passer la sarteuse. Si on la passe, on la passe ça trois fois. Le temps, le nombre idéal, c'est une fois par semaine. Parce que s'il y a des fois qu'on était retardé par la mauvaise température, puis les mauvaises herbes poussent pareil, même si c'est trempe ou si c'est sèche.
Donc, les betteraves lèvent au bout de trois semaines, et ensuite, il faut passer la sarcleuse idéalement une fois par semaine. Et puis, est-ce que vous pouvez donner un petit peu une idée du temps que ça prenait? Par exemple, combien d'acres aviez-vous et combien de temps ça prenait pour sarcler tant d'acres?
Là, ça dépend à quelle période qu'on parle. Les premières années, on n'en faisait pas beaucoup dans une journée. Là, je ne pourrais pas dire. Je sais qu'il y a des fois, comme dans le temps, comme on mentionnait tout à l'heure, qu'il faut que le terrain soit ferme pour avoir une meilleure germination.
Ah oui, oui.
Puis après ça, ben, ça allait mieux pour le cultiver. Bon, ben là, j'ai déjà vu, avant ces périodes-là, là, avant qu'on découvre que c'est mieux quand c'est ferme, ben là, des fois, on était dans la terre meuble, puis on faisait, je ne sais pas, une cinquantaine de pieds, puis là, il fallait arrêter pour nettoyer toutes les grattes. Parce que tu partais, puis encore un autre 50 pieds, tu as couru. Bon, et des fois, je me demande comment ça se fait qu'on a vu continuer si longtemps. À cause de l'ouvrage que ça demandait pour. Ça demandait beaucoup de patience.
Alors là, j'ai une question terrible à vous poser.
Ah oui, ça.
Quand vous avez découvert le truc suprême qu'il fallait que le sol soit compacté et tout allait mieux, est-ce que vous avez partagé le secret?
Oui. 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 Oui.
Et ils ont constaté la même chose?
Oui. Je pense qu'il y en a, oui, il y en a plusieurs qui faisaient la même chose. Peut-être d'une façon différente, mais il fallait qu'il y ait quelque chose qui soit fait.
La raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est que j'ai l'impression des fois qu'il y a des fermiers qui ont tendance à partager certaines informations et d'autres non. Mm-hmm. Ça dépend de quoi? Au niveau de la communication entre fermiers. Qu'est-ce que vous en pensez, là, humainement parlant?
On ressort peut-être du sujet de récolter la betterave, mais je pense que ça a l'air à faire à ça.
Oui.
Oh, mais
oui.
J'étais vous trouvé en allant à des assemblées, il y en a que je me suis toujours fait dire que bon, vous m'allez là, que tu perds ton temps, ou ça donne rien. Mais non, c'est le contraire. Puis c'est pas souvent c'est pas nécessairement l'assemblée comme telle qui est intéressante, c'est les rencontres avec d'autres producteurs dans la même ligne. C'est là qu'on apprend le plus.
Ah, oui.
Puis ça vaut quelque chose qu'on peut pas évaluer.
Alors, quand vous parlez d'assemblée, c'est des assemblées de quoi, par exemple?
Soit des assemblées annuelles ou de betterave à sucre. Puis aussi, j'ai été longtemps directeur de l'association de producteurs de betteraves.
Directeur, donc membre du conseil d'administration?
Non.
Non?
Non, non, c'est pas... secrétaire, oui, je l'ai été, mais Non, c'est une association de producteurs de betteraves. Puis ça, bien, c'était pour justement essayer de découvrir ce que c'est qu'il peut y avoir de nouveau pour s'améliorer.
Et il y en avait combien membres de cette association?
Combien de membres?
C'était Manitoba.
Dans la province, on était, je pense, 5, 6, 7. Une association par district. Je pense que c'est 7 districts qu'il y avait dans la province.
Et dans votre district? Il s'appelait comment votre district?
C'est Manitoba Big Growers Association. Le district, alors, je ne sais pas s'il y avait un numéro. Bon, non, c'était pour l'atelier.
Pour l'atelier.
Le district de l'atelier. Oui.
D'accord.
Puis il y en avait un pour le district d'Altona. Il y en avait un autre pour le district de Gretna. Puis il y en avait un pour le district de Portage-la-Prairie. Puis un autre pour Steinbeck. Puis un de Winkler.
Il y en
manque un. C'est dans le nord. Au nord de Winnipeg. Le Toulon. Puis je pense qu'il y a un autre village là. Il n'était pas beaucoup, là, monsieur.
Alors, il y en avait combien en tout? Vous étiez combien dans les bonnes années? De producteurs?
Oh, de producteurs. Non, je ne pourrais pas dire.
Des centaines?
Oui. Ah oui.
Parce que vous alliez aux assemblées en ville, vous aux assemblées.
Les assemblées annuelles, oui.
Oui.
Ah oui.
Peut-être 200, 300. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous impliquer?
Bonne question. Non, je m'intéressais à tout l'ensemble. Puis, quand il y avait des moyens ou des occasions de pouvoir se renseigner, d'autres, ça ne les intéresse pas. Mais non, je ne sais pas. Non, c'est que. Non, c'était un peu naturel. Ça me date tout de même. Naturellement.
D'accord. Je pense que c'est la meilleure réponse qu'on puisse donner.
Oui.
Alors là. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter sur la photo de 66? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Ça, c'est dans la première période, avant que vous ne compactiez?
Non. Ça, c'est... On a compacté le printemps. Ça, c'est avant de semer. Il y a la semence. Puis après ça, bien, ça c'est peut-être la deuxième ou troisième fois que... Je pense que c'est la dernière fois que je passe. Là, parce que les feuilles commencent à être pas mal larges.
Oui.
Puis souvent, quand les feuilles sont larges, ça veut dire que les racines, ils s'étendent aussi. Fait que si tu passes à l'arbre, ça veut dire que tu t'arraches des racines, puis que c'est plus bon pour la betterave.
Alors ça, c'est le dernier des trois sarclages.
Oui.
Et après, qu'est-ce qui reste à faire?
Après, ben là on attend pour la récolte.
Et là, elle vient quand?
Avant ça, j'aimerais ajouter que...
Oui.
Il y a une année qu'on avait fini, puis même on s'est dit, ah ben là, on n'a pas besoin d'engager cette année. Puis on avait arrosé pour détruire les mauvaises herbes. Puis à un moment donné, ça commençait à pousser. Donc là, ben, il va falloir engager. Puis c'était rendu qu'il fallait payer 80$ de l'aoque, qu'on trouvait que c'était un montant exorbitant. Puis même, il y a des piocheux qui cassaient leurs manches de pioche, tellement c'était dur. Ah bien, on va arrêter. Puis là, ben, on ne savait pas si c'était rentable de le faire. Mais on arrête. Puis là, ben, l'automne, je me suis dit, on va prendre un test. Arracher tendrant dans les lisière qui avait été pioché, juste au côté, tendrant qui n'a pas été pioché. Mais ça payait le piochage, puis plus. Comme, par exemple, il faut avoir, je pense, 4 tonnes à l'aoque de plus. OK, disons que ça en a pris, mettons, 3 tonnes pour payer le cerclage à la main. Mais il reste encore un profit d'une tonne,
une tonne
qui peut être mettons, 10 piastres de l'aoque.
Alors, comment est-ce que...
Puis, un gros point important là-dedans, c'est que où ce que c'est que ça a été nettoyé, mais il n'y a pas ce graine-là, tout dégrainé. Parce que les lisières qui n'ont pas été piochées, là, ça a continué à pousser. La graine, elle a mûri, puis elle a tombé à terre, puis c'est des récoltes pour plusieurs années après. C'est surprenant comment longtemps que ça peut durer. Ça, qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que plusieurs années avant, on a eu une expérience semblable. C'est qu'on n'a pas pu s'harteler. Puis même cette année-là, il n'y avait pas d'arrosage. Puis on a récolté que ce qu'on a pu. Puis les mauvaises herbes, ça a tout égrené. Puis là, pour semer la betterave à sucre, il faut avoir une rotation de, je pense, c'est 4 ans. Puis là, au bout de 4 ans, je venais semer à même place, seulement que la séparation a changé un peu. Bon, bien, il y a moitié du champ qui était de cette année-là, 4 ans passés, puis l'autre moitié, c'était un autre genre de culture, peut-être des céréales. Puis le champ qui avait pas été travaillé, là, c'était pourri de moutarde. Puis ça venait de 4 ans passés. Parce que c'est pas croyable comment ce que c'est que ça peut. Puis, qu'est-ce qui fait dire ça? C'est que là, l'année que justement qu'on a fait piocher, puis ça coûtait cher, c'était une année sec. La terre était craquée. Il dit, peut-être qu'on pouvait se rentrer la main là, jusqu'au poignet dans la terre. Donc ça, c'est comme si la terre était ouverte, puis attendait les graines de mauvaises herbes tomber, puis là, ça se tombait dedans, puis ça se conservait pour des années à venir. Ça m'a fait cette impression-là.
C'est ça. Donc, une décision à un moment donné, plus ou moins bonne, prise pour des considérations financières des fois douteuses, mm-hmm. a des implications pour de nombreuses années.
Oui, oui.
Comment est-ce que vous pouviez voir quand est-ce que c'était rentable? Comment est-ce que vous fonctionniez? Tant de tonnes, le prix?
Oui.
Mettez-moi dans la tête d'un betteravier. Comment vous pensez la rentabilité comme producteur de betteraves?
Je ne saisis pas trop de sens.
Bien, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez préoccupé par la rentabilité. Est-ce qu'il faut faire piocher, pas faire piocher? Donc, vous avez un schéma en tête qui dit que pour tant d'acres, je dois récolter tant de tonnes?
Dans ce temps-là, dans le temps, on ne savait pas. Parce que là, on savait qu'est-ce qu'on dépensait, mettons 80$ l'acre. Mais on ne savait pas si on le reprendrait. C'est en faisant le test que je l'ai vu. Autrement que ça, on aurait dit, ça ne paye pas, ou on n'a rien à gagner. Mais par le fait qu'on a fait un test, puis là, c'est la réalité. C'est pas rien qu'à peu près. Tout ce lisière-là, ça a été pesé séparément. Puis l'autre aussi, c'est de même qu'on a pu comparer. La même chose que j'ai déjà faite avec des céréales, avec de l'engrais chimique. Bien, on en mettait, mais on ne savait pas c'est-tu payant ou... Non, on faisait un peu comme les autres. Hein, les autres en mettaient, mais nous autres aussi. Mais après qu'on fait ces tests-là, on découvre que oui, ça vaut la peine.
Est-ce que vous aviez un prix garanti?
La betterave? Oui. Non.
Jamais?
Non.
Est-ce qu'il vous est arrivé, à part la deuxième année, je pense, de perdre de l'argent avec les betteraves?
Ah, ben là, c'est à cause de la température qui faisait défaut.
Oui, c'est ça. C'était pas une erreur du fermier. Là.
Non, non. C'est que l'hiver est venu trop vite, plus vite, puis on n'a pas eu le temps de tout récolter, ou on a eu plus de misère à récolter qui causait des dépenses, surplus. Non, on peut pas prévoir ça d'avance.
Il faut toujours essayer de... Oui. Le jeu, c'est calculer les dépenses au minimum.
Oui.
En sachant qu'il y en a certaines qu'il faut faire, parce que sinon, on met la récolte en péril.
Oui.
C'est ça.
Oui.
Bien. Alors là, nous allons à la photo de 88. Alors, c'est une photo où on voit toute l'ampleur de la plaine.
Mm-hmm.
Qu'est-ce que vous pouvez en dire?
C'est que ça s'est beaucoup amélioré là, comparé avec...
Avec 66?
Ah oui, ah oui, ah oui. C'est pas croyable que c'est la différence qu'il peut y avoir. Soit en fait, soit au point de vue travail ou au point de vue machine, c'était plus pareil. Ça, je prends une heure à trop à dire en même temps que...
Bien. Où est-ce que vous souhaitez commencer? Quand est-ce qu'il y a eu le point tournant de l'amélioration?
Point tournant. C'est venu graduellement. Ah oui, oui. Non, c'est parce que je vois la façon qu'on faisait au tout début, puis même avec en avançant, puis les dernières années, mais bon, Yann, ça se fait tout seul à comparer. Dans le sens que, non, les machines, c'était perfectionné, puis...
Et quand vous dites que ça se faisait tout seul, presque littéralement, quoi.
Oui.
Vous aviez besoin de beaucoup de monde, et puis là, vous aviez besoin de
combien de personnes? Oui, ben là, c'est rien que... Oui, on était trois. Non, mais ça, oui, ça, ouais, ça, c'est encore pire, ça, là. Donc, je parle là, simplement au point de vue, machinerie, puis comparativement, les premières années, comparativement, les dernières, c'est dans le sens que, avant ça, il fallait bien tranquillement, hein, de peur de couvrir les petites betteraves. Bon, après ça, là, ils ont sorti, ils ont sorti des gardes, ça allait, c'est juste avec entre les pioches.
Oui.
Puis ça allait par-dessus. Demain, s'il revolait de la terre, ça revolait sur le garde, pas sur le rang. Fait que là, tu peux aller plus vite. Puis après ça, qu'est-ce qui était là? Alors, c'est juste... ils ont changé la façon pour s'arteler. Avant ça, il y avait des couteaux croches. Puis après ça, c'était juste des petites pioches. Là encore, on avait des gardes pour empêcher la terre de revoler sur les rangs. Mais là, plus vite tu pouvais aller, mieux c'était. Parce qu'en allant plus vite, ça faisait une vibration sur ces petites pioches-là. Puis même, s'il y avait des mauvaises herbes, ça les faisait revoler. Parce qu'avant ça, on allait bien tranquillement. Là, qu'est-ce qui arrivait? Bien, des fois, ça passait par-dessus la pioche, ça retombait là, puis ça continuait à pousser. Hein? Puis pour la récolte, c'est pareil. Les machines qu'on avait, les premières, bien, souvent, surtout si c'était un peu collant, c'était souvent bourré, debout.
Mm-hmm.
Là, à cette heure, non. Pourtant, c'est la même terre, puis c'est encore du métal, mais ça ne colle pas comme avant. Ça collait pas comme avant. Puis, je ne sais pas. C'est amélioré, là, qui est presque au bout.
Cette valeur qu'il est obligé d'arrêter.
Oui. Oui, c'est cette valeur que je n'ai pas pu continuer. Ou qu'ils ont fermé la raffinerie en 95.
C'est un bon revenu pour les
familles. C'est un revenu presque garanti. Plus que les céréales. Malgré qu'aujourd'hui, il y a les fèves qui remplacent la culture des fèves.
Les fèves sont devenues les remplaçants des betteraves.
Oui. Oui. Mais ça, j'ai arrêté justement avant que tomber dans cette nouvelle culture. Non.
Alors donc, au niveau de l'équipement qu'on distingue, quel genre de tracteur c'est?
Ça, c'est un tracteur John Deere. Puis l'arracheuse, c'est un John Deere aussi.
Vous
vous
souvenez du modèle?
Je pense
que
c'est 430.
Le John Deere?
Le tracteur ou le...
Ben, les deux.
Non, mais le tracteur, c'est...
Je deviens gourmand, moi.
Le tracteur, c'est un 40-440.
Un 44-40.
Oui. Puis l'arracheuse, c'est 430. Oh.
Une 430A.
Oui, c'est le modèle.
Et le camion?
C'est un GMC.
Il a l'air d'avoir un petit peu d'âge, là, déjà, ce camion.
Oui, oui, oui. Ça allait bien court. On a passé en travers de plusieurs.
Quand est-ce que vous décidiez qu'un camion était plus bon?
Oh, ben là. C'était un peu, surtout quand on voyait qu'on avait les moyens de changer, puis ça faisait plusieurs années qu'on l'avait, bien, c'était son tour. Oui. Non, j'ai trouvé, moi, que il n'y avait pas avantage de garder les machines trop longtemps. Comme par exemple, avec une semeuse, entre autres, qu'on a échangé une année, puis ça faisait 10 ans qu'on s'en servait, puis qu'on a eu presque autant en échange sur une neuve. Mais il ne faut pas oublier que le prix de la machinerie avait remonté pas mal. Fait qu'il faut, même au bout de 10 ans, la machine est encore bonne. Puis il y avait encore un bon prix pour. Fait qu'il faut allouer un certain montant. Puis le montant qu'il allouait là, sur une neuve, c'était presque le montant qu'on avait payé pour. Fait que là ça nous disait, ben, pourquoi il faut attendre plus longtemps pour ça? Non, là, c'est plus bon, j'ai tout usé. Tu payes au plein montant. Mais... Puis à part de ça, ben, en travaillant avec des machines neuves, c'est plus sécuritaire pour... C'est plus certain que tu vas marcher régulièrement avec, sans trop de dommages ou sans de réparation. C'est un autre moyen de sauver du temps. J'ai déjà vu des combines. Il y en a qui gardaient ça longtemps, quasiment jusqu'à la corde, mais souvent, il était arrêté parce qu'il fallait qu'il fasse des réparations. Mais dans ce temps-là, ben, le battage ne se fait pas. C'est pour ça que ça coûte de l'argent pour renouveler plus souvent. Mais je pense que tu peux économiser autant, si ce n'est pas plus. Puis ça va toujours mieux travailler avec une... Puis encourager avec une... Encourageant à travailler une machine neuve qu'une vieille. Pour moi, non.
Oui, je pense que c'est des commentaires tout à fait sensés.